Je prie l'Éternel des armées qu'il nous donne l'intelligence, la capacité, la sagesse de comprendre sa parole et de l'appliquer dans notre vie tous les jours de notre existence. Que toute la gloire lui revienne. Père, encore une fois, je remets ta parole en tes mains. C'est toi qui la connais plus que nous-mêmes, puisque nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Que les paroles que je vais prononcer, Seigneur, soient pour la gloire de ton nom et pour l'élévation encore de ton Fils, le Messie bien-aimé, Yeshua. Père Céleste, je me remets en tes mains, que je puisse être encore au bénéfice du sang de ton Fils, Seigneur, et de l'action de ton esprit, afin que ce que je dirai soit esprit et vie. Dans le nom de Yeshua, le Messie. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commenter dans le cadre des versets de la semaine, le chapitre 21 du premier livre de Samuel. Après le chapitre 20, où David et Jonathan se sont séparés, et David donc est parti loin de Saül et a entamé un nouveau départ. Voilà, donc j'ai intitulé ce commentaire, cette réflexion, si vous voulez, ou cet enseignement. Un nouveau départ. Je lis. Il se mit en route et partit, tandis que Jonathan retourna à la ville. Parle de David. Donc, c'est le chapitre 21, du verset 1 au verset 16. C'est plus court. David arriva à Nob, chez le prêtre Ahimelech. Celui-ci courut à sa rencontre et lui dit : D'où viens-tu que tu es seul et que personne ne t'accompagne ? Le roi lui répondit : David m'a donné une mission et m'a dit que personne ne sache rien de la mission et de l'ordre que je te donne. Quant aux serviteurs, je leur ai donné rendez-vous à certaines places. Donc voilà. Donc David étant parti de Gibéa, il ne paraîtra plus donc à la cour de Saül, puisque sa vie étant en danger. Donc dans son itinéraire, ou pérégrination si vous voulez, David est arrivé à Nob. Nob, c'est une ville, on peut dire, de prêtres et de sacrificateurs qui se trouve sur le territoire de Benjamin, mais près de Jérusalem. C'est ça. Nom vient d'un mot qui veut dire fruit. Et Ahimelech veut dire frère du roi. Ahimelech, frère du roi. Donc lorsque Ahimelech, donc qui connaît David, qui connaît bien David, donc a vu que David est venu seul à sa rencontre, donc il courut à sa rencontre. Il faut pour lui poser des questions parce que c'est étonnant, c'est pas normal que David étant un chef de guerre donc soit seul, non accompagné de ses serviteurs, de son aide de camp, d'une armée, puisqu'il sortait toujours à la tête de l'armée, il était chef. Même si Abner était le chef de toute l'armée, David a été nommé chef de 1000. Donc c'était parce qu'il a perdu son poste, c'était un officier redoutable, aguerri, un officier talentueux, honnête. Voilà, un des bras droits donc de Shaoul. Et je fais remarquer que on n'a plus parlé des frères aînés de David, les trois frères qui étaient à la guerre avec Shaoul. Peut-être qu'ils se sont retirés vu le comportement de Shaoul. Donc David entame donc un nouveau départ, sans armes, sans provisions, sans rien. Rien du tout. Il n'avait rien du tout que sa personne, son cheval. Sûrement, c'est son cheval. Je ne sais pas s'il marchait à pied, je ne pense pas. En tout cas, peut-être, hein, mais marcher à pied, que là, non, il était à cheval, sûrement. Il était à cheval, sûrement. Donc, il n'avait plus rien. Rien, c'est vraiment un nouveau départ, dépouillé. Il a perdu son poste, il a tout perdu dans la vie. Peut-être aussi que il peut nous arriver des situations comme ça où nous perdons tout, où nous perdons notre travail, où nous perdons notre conjoint, soit ce conjoint est parti, nous a abandonné, a divorcé, est parti, ou bien par la mort. David donc entame donc un nouveau départ. Et en chef de guerre stratège comme il était, David n'a pas voulu dévoiler les choses à Ahimelech parce qu'il se méfie. Il ne sait pas de quel bord est ce sacrificateur. Voyez, c'est ça. Donc il n'a pas menti. C'est de la stratégie. C'est en temps de guerre. En temps de guerre, voilà, en temps de guerre, il est permis d'user de stratégies pour tromper l'ennemi. Donc, il s'est présenté comme en mission, comme en mission, sans armes, et qu'il était parti comme ça, incognito, et que personne ne devait savoir l'ordre voilà, que lui a donné le roi Shaoul. Et quand au serviteur a dit, il leur a donné rendez-vous à une place, il n'avait personne, il était seul. Ah, sa solitude, la solitude, hein, mon frère, ma soeur. Oh, si tu es seul, n'aie pas peur, parce que la Bible dit, mon père, ma mère m'abandonne, mais l'Éternel m'a recueilli. Que l'Éternel aussi te recueille, et que ce dépouillement, cette situation, soit pour toi un nouveau départ. Un nouveau départ, donc, dans la vie. Hein? Ou bien même, si même ce sont tes enfants qui t'ont abandonné, que cette situation dans ta vie soit un nouveau départ. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Soit donc un nouveau départ pour toi, au nom de Yeshua. Donc voilà un nouveau départ. Voilà quelqu'un qui avait tout, officier, qui jouissait de tous les privilèges, que tout Israël acclamait, un chef de guerre redoutable, le gendre de Shaoul, qui du jour au lendemain a tout perdu. Ben ça peut nous arriver, où nous perdons tout. Nous perdons tout, abandonnés de tout le monde, incompris de tout le monde. Où notre vie est menacée, vous êtes persécuté à cause de votre foi, ou bien à cause de vos positions, même au sein de ton assemblée. Tu peux être mal compris, persécuté, tes enfants t'abandonnent, ta femme aussi est partie, ou ton mari est parti, abandonné de tout, sans rien. Il n'avait même plus son instrument de travail, il n'avait rien pour se défendre. Durant tout son trajet, c'est l'Éternel qui l'a protégé. Et je prie également que l'Éternel aussi te protège et te garde. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position où tu te trouves, que l'Éternel, notre Dieu, te garde et te protège. Il a promis et il le fera. Il honore toujours sa parole. Il a dit que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplisse. Donc aussi, David étant parti sans rien, a fait toute la route, il avait faim. Il avait faim, donc il va voir Ahimelech parce qu'il savait aussi qu'il allait trouver du secours là-bas. Il avait trouvé du secours. Puisse l'Éternel aussi te guider, toi qui m'écoutes, si tu es dans une situation difficile, qui te guide vers quelqu'un qui pourrait te porter secours. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler Jacques. Jacques, dans le verset, a dit, si ton frère vient et qu'il est dans le besoin et tu lui dis, prions simplement que tu ne lui donnes rien, alors là, tu es coupable. C'est moi qui interprète. Et David avait faim et il a demandé à bénéficier donc de quelques provisions. À bénéficier de quelques provisions. C'est ce que David a dit. Et le prêtre n'avait rien d'autre que des pains de la face. Il n'y a pas de pain de proposition ici, hein. De pain consacré, c'est de pain consacré. Le mot qu'ils ont traduit que le français, ou bien Louis II a traduit par proposition, c'est le pain de la face. Ahimelech, le frère du roi, lui donna donc du pain consacré, ou le pain de la face, donc le pain qui a été retiré devant la face de l'Éternel Dieu. Donc c'est un pain qui est sanctifié, que personne d'autre que le prêtre ne doit prendre, en tout cas, et manger. Alors, le prêtre s'est assuré que David et les gens qui étaient censés manger les pains soient demeurés purs, ou bien n'aient pas eu de relation sexuelle avec leur épouse ou une femme. D'accord. C'était ça. Nous aussi, avant la Bible nous dit, c'est Yeshua même qui le dit, de ne pas jeter des perles devant les pourceaux. De ne pas donner des perles aux pourceaux. Les pourceaux, bon, c'est le petit du porc. Vous savez comment est le porc. Il peut se laver, on le lave, et il va aller se rouler dans la boue. Comprenez? Il va aller se rouler dans la boue encore. Donc, il faut que ce que nous donnons aux uns et aux autres, nous soyons sûrs que ces gens-là sont consacrés, que ces personnes, que ces frères et sœurs mènent une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée. Avant de leur donner certaines choses. Sinon, ils vont s'en servir mal. Donc, David entame un nouveau départ et il a eu droit à ce pain consacré, comme il dit, depuis 3 jours qu'il est parti. Oui, il n'a pas eu le temps. Il n'est même peut-être pas parti, même avec sa femme, son épouse, Michal. Et comme il n'y a personne, avec lui, il a dit quelque chose que Louis II n'a pas rendu. En hébreu, c'est différent, c'est différent de la tradition que Louis II a fait ou les autres ont fait. Le verset 6, certes, répondit David auprès, nulle femme n'était à notre portée depuis environ 2 ou 3 jours. Que je suis parti. Et les vases des serviteurs sont restés purs. Les vases ici, je ne sais pas, peut-être c'est le corps ou l'organe qui sécrète le liquide sont restés purs. S'il en est ainsi par rapport aux choses profanes, à plus forte raison aujourd'hui que les vases doivent servir à un objet consacré. Voilà, ils disent que vraiment, il y a eu une note là-bas, c'est que ce message est obscur et presque intraduisible. C'est obscur ce que David avait dit. On ne sait pas ce qu'il a voulu dire par là. Mais moi, je me dis que peut-être que c'est le corps dont il parle, que leurs corps sont restés... sans faire quoi que ce soit, et à plus forte raison que ce corps va servir à manger un objet consacré, doit absorber un objet consacré. En tout cas, c'est obscur. Donc nous devons nous sanctifier chaque jour, puisque aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu est sur nous. Donc chaque heure, à chaque seconde, à chaque jour, mes frères, mes sœurs, nous devons vivre cette sanctification, séparée du monde, séparée des choses profanes, et nous devons vraiment nous consacrer, la consécration, vous voyez, mourir à ce monde, mourir à ce monde. Quelqu'un qui est mort, un cadavre ne réagit plus aux stimuli de ce monde. Nous devons mourir aux joies de ce monde, mourir aux coutumes de ce monde, aux us, aux coutumes de ce mort, de ce monde plutôt. Nous devons mourir au caractère de ce monde, aux fréquentations de ce monde, aux amusements de ce monde, aux jeux de ce monde. Nous devons mourir à tout cela. Nous devons mourir au comportement de ce monde. Mes frères, mes sœurs, c'est à cela que le Tenet Dieu nous appelle. C'est pourquoi il a dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Qu'a-t-il entre le diable et Dieu? Il n'y a rien. Il n'y a rien, rien. L'ennemi de nos âmes est une créature. Et Yeshua est le créateur. Mes frères, mes sœurs, il n'y a rien, il n'y a aucun rapport entre celui qui est juste et celui qui est injuste, entre le profane et le saint, entre celui qui vit par la foi et celui qui vit selon le train de ce monde. Mon frère, ma sœur, nous devons vraiment nous séparer. Cette séparation doit être nette, pas notre comportement, pas notre manière de vivre. C'est ce qui a permis aux autres de nommer les disciples, les premiers disciples chrétiens, petits messie ou messianiques, les messianiques, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas dit chrétien, mais ils ont dit messianique, du nom du titre que porte Yeshua, appelé Jésus en français, du titre que porte Yeshua, c'est-à-dire Hamashiach, d'où vient le terme messie. Donc, Ahimelech, donc, s'exécuta après la réponse, donc, de David et lui donna les pains de préposition. Voilà. Et nous arrivons au verset 8. Voilà. Mais, ce verset est important parce que ça va déterminer la suite des événements qui vont se passer dans le chapitre 22. Voilà, mais, tout était bon, tout était au mieux, tout était impeccable jusqu'au verset 8. Or, là se trouvait en ce moment un des serviteurs de Shaoul, retenu en présence du Seigneur, son nom était Doeg, l'Éduméen ou l'Édomien. Doeg veut dire timide, craintif, peureux. L'Éduméen, intendant des troupeaux de Shaoul. Doeg, le timide, était enfermé. Bon, peut-être qu'il faisait un sacrifice ou il est venu présenter ses vœux à l'Éternel, on dit, était enfermé en présence de l'Éternel, devant l'Éternel. Donc, c'est ça, il était venu prier ou pas. Doeg, l'Édoméen, c'est un Édomite. Un Édomite, Doeg. Vous savez, les Édomites ont été convertis au judaïsme. C'est ça qui a permis à Hérode et à ses descendants de régner sur Israël. Hérode est un Éduméen. Il n'était pas juif d'origine ou hébreu d'origine. C'est un Édomite. Et les Édomites ont joué beaucoup de sales tours aux Israélites. D'abord, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils avaient refusé qu'ils passent par leur territoire. Et ce Degla va aller tout rapporter donc à Shaul, ce qui va permis à Shaul de se venger d'Ahimelech et de tous les prêtres qui se trouvaient à Nob. Donc ce Degla le Douméen, hein, vous allez voir que comme son... c'est pas un de ses descendants, mais un de ses compatriotes, Hérode, qui va vouloir éliminer le Messie et qui fera le massacre de quelques enfants de Bethléem pour empêcher le Messie de prendre sa place. Hérode a été vraiment quelqu'un de sanguinaire. Il n'a pas hésité à tuer ses propres enfants, à tuer sa femme même, voilà, parce qu'il est soupçonné de complot, à tuer des grands prêtres, à les éliminer. Il en a éliminé pas mal. Vraiment, son règne a été parsemé de morts, d'assassinats même, ce que je peux dire. D'assassinats, Hérode le Grand, bien sûr. Et même ses successeurs, Antipas et autres. Hérode le Grand était décédé à, on a dit, moins 4, avant Jésus-Christ, oui, ou 4 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, je ne sais plus. Mes souvenirs ne sont pas, vous le savez, si vous cherchez. Donc, Degla le Douméen aussi, vous allez voir dans le chapitre 22, c'est lui qui, sous l'ordre de Shaul, va assassiner les prêtres, parce que les autres serviteurs vont refuser de s'exécuter. Voilà, ce verset est important. Ce mais-là est important. Or, voilà, parce que c'est lui qui va tout rapporter donc à Shaul. Et David, donc, pour se protéger aussi, demanda donc à Ahimelech son instrument de travail, c'est-à-dire donc une épée. Une épée. Oh, il n'y avait pas d'armes là-bas, puisque David était parti dépouillé. C'est vraiment un nouveau départ. Il était vraiment dépouillé. Dépouillé de tout. C'était vraiment un nouveau départ qu'il entamait. Que soit un nouveau départ pour toi ou pas, mon frère, ma sœur, sache que l'Éternel est bon et qu'il est avec toi. L'Éternel était bon avec David parce que l'épée de Goliath est restée donc devant l'Éternel à Nob. Voilà, cette épée est restée là-bas jusqu'à maintenant. Shaul aurait pu la prendre comme trophée, ou David lui-même. Mais, vous voyez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'épée de David, l'épée de Goliath était restée là. Et le prêtre remet donc à David l'épée de Goliath. Voilà, maintenant, David s'est restauré. Il a repris des forces. Que l'Éternel aussi te donne aussi la grâce de reprendre la force comme un aigle et que tu puisses survoler les épreuves et les tentations qui se mettraient sur ta route. David, en voyant Degla le Douméen, le serviteur de Shaul, ouais, c'était vraiment quelqu'un de bon, d'innocent. Il n'avait pas fait attention, il n'avait pas dit « Ok, je vais le liquider pour éviter qu'il rapporte tout à Shaul. » Vous voyez ? C'est quelqu'un qui a vraiment un cœur bon. C'est quelqu'un vraiment qui est généreux, qui ne pense pas à mal. Vous voyez, en voyant Degla, il aurait pu le tuer. Mais non, il n'avait pas ça dans la tête. Il voulait partir loin de Saul, sauver sa vie. Voilà, il prend l'épée de Goliath et il part. Il part. Et c'est vrai que cette épée n'a pas sa pareille en Israël. Comme ça parlait en Israël, il prend l'épée et il s'en va, sans prêter attention à Doeg l'Édomite qui était là, qui écoutait tout. Là, il a manqué de clairvoyance, mais il ne pouvait pas le tuer. Il ne lui a rien fait. Ce serait un assassinat. Or, la Bible dit, tu n'assassineras pas. Ce n'est pas que tu ne tueras pas, parce qu'en temps de guerre, ben, si on vous attaque, il faut bien se défendre, mes frères et sœurs. Mais le verbe, c'est assassiner. Tu n'assassineras pas. Voilà. David, donc, partit après s'être restauré et être saint de cette épée, David est parti à Gath, chez l'ennemi philistin, à Achish. Gath, c'est la ville même de Goliath. Goliath venait de Gath, vers Gaza. C'est vers Gaza. Est descendu en bas, plus bas, pour se réfugier dans un territoire où Shaul ne s'aventurait pas, Ça, c'est clair. Il est sorti donc du territoire israélien et il est allé chez les ennemis, ceux qu'il avait combattus auparavant. C'est un pari risqué. C'est vrai que il n'est pas en sûreté, il est seul, il n'est pas en sûreté, c'est un fugitif. Même si aujourd'hui, après avoir pris l'épée de Goliath, il est plus aguerri, il peut se défendre, et aussi l'Éternel est avec lui. C'est vrai que pendant toute sa pérégrination, on n'a pas vu David implorer l'Éternel Dieu. Mais oui, je ne sais pas si c'est la pression ou bien c'est parce que on ne l'a pas... En tout cas, l'Esprit n'a pas voulu mettre cela, ou bien je ne sais pas. Mais néanmoins, c'est étonnant que David n'a pas à aucun moment imploré l'aide de l'Éternel Dieu. Sûrement qu'il a fait et qu'il prie, et qu'il priait. Non, on ne sait pas. Ça n'a pas été mentionné. Mes frères, mes sœurs, sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Il est vrai que l'Éternel est toujours là, l'Éternel qui le guide, malgré ses erreurs, malgré ses manquements, hein, l'Éternel est là, l'Éternel le porte, l'Éternel le guide, voilà, dans ses décisions. Même s'il a pris des décisions malencontreuses, des décisions mauvaises, on peut dire, l'Éternel l'a accompagné, l'a gardé. Parce que c'est loin de l'Éternel que l'Éternel aussi te garde et te protège dans toutes choses. Mon frère, ma sœur, quel que soit le chemin que tu prendras, mais que même dans tes erreurs, que l'Éternel te fasse retomber sur ses pieds. Que l'Éternel t'amène à revenir sur ce chemin étroit et rocailleux qu'il a tracé à travers le sacrifice de Yeshua, notre Messie, Jésus en français. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et te garde et te donne la grâce de continuer à œuvrer pour lui, de continuer, mon frère, à s'approcher de lui, de continuer à le connaître mieux pour mieux le servir. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te donne la grâce de vivre sa parole. Mon frère, de vivre sa parole. Ce qui nous manque tous, à nous tous, hein, en tout cas, pas à tout le monde, mais c'est de vivre la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu se concrétise dans notre vie. C'est que cette parole prenne vie dans notre vie. C'est ça. On peut l'illustrer encore par cette parole de Jean le baptiseur, Yohanan Hamatbil, qui disait, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Que Yeshua croisse en nous. C'est lui d'abord qui fait l'action. C'est lui le premier d'abord. Il n'a pas dit que je diminue et qu'il croisse. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Ok, vous saisissez le sens? Voilà, c'est différent. Il faut qu'il croisse. Que Yeshua, que L'Esprit de Dieu, qui représente Yeshua aujourd'hui sur la terre, croit en nous, prenne beaucoup plus d'importance dans notre vie et que nous, le moi, notre être, notre moi, qui est le siège de notre ego, de notre orgueil, diminue chaque jour et que nous soyons humbles de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Afin que quand les gens nous regardent, ils regardent, ils voient Yeshua en nous. Mais oui, qu'il en soit ainsi pour nous tous, mes frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi pour nous. Et David donc passa donc à l'ennemi, se leva le même jour, il passa chez Achish à Gat. Mais il est connu, il a fait beaucoup de guerres avec contre les Philistins. Et il n'est-ce pas le roi du pays? Mais oui, parce que en disant que David a battu ses myriades et Shaoul ses milliers, mais oui, c'est le roi qui bat, qui travaille le plus, vous voyez? Ce n'est pas comme aujourd'hui, hein. Les présidents d'aujourd'hui, hein, c'est pas ça, hein. Ils ne travaillent pas beaucoup. Ils ont tous les privilèges, mais ils ne travaillent pas beaucoup pour leur peuple. Ils travaillent pour leur poche. Combien de milliards certains présidents, après leur gouvernance, ont accumulé? Surtout les présidents africains. En tout cas, c'est ce que nous savons, c'est ce qu'on nous dit. Même ici aussi, les présidents, ici en Europe aussi, hein. Il y a eu un scandale tout récemment, non? Ce n'était pas des présidents, mais c'était des parlementaires à l'Union européenne qui ont été saupoudrés par un pays, hein, par un pays richissime, un pays où le gaz et le pétrole coulent à flot, que je nommerai pas, vous le savez, là où a été organisée tout récemment la Coupe du Monde. Ce pays a influencé beaucoup ces parlementaires européens. On parle de lobbying. Le lobbying, c'est la corruption. Vous savez, quand, lorsque certains Européens, certains occidentaux, politiques occidentaux parlent, ils parlent de corruption en Afrique et de lobbying ici en Europe, mais c'est la même chose, mon frère, ma sœur. Ben oui, c'est ça. Dans ce milieu-là, il faut même être capable de fermer les yeux sur le cadavre de tes parents ou de tes frères et sœurs s'ils en viennent à se mettre contre toi. C'est ce milieu-là, frère, ma sœur. C'est de la politique. Donc, ces gens-là ont dit... ah oui, c'est le roi du pays, parce que dans la chanson, David était mis avant Shaoul. Alors, David a eu peur. Ben oui, parce que il est vulnérable. Il se trouve en territoire ennemi. Il est seul. Il est vulnérable. Il est vraiment vulnérable. Hein? Peut-être que toi aussi, tu t'es mis dans une situation où tu es devenu vulnérable, où ta foi a failli basculer, où tu es prêt de céder, de quitter la foi, de quitter la voie que Yeshua est venu proclamer. Tu es prêt à abandonner ta foi. Tu es prêt à abandonner ta consécration. Tu es prêt à profaner ton corps pour quelques sécurités, pour quelques vituales, pour quelques sous, pour, je sais pas, selon ta position, mon frère, ma sœur, alors, viens, retourne devant le trône de la grâce, retourne au trône de la grâce. La Bible nous dit qu'en toute chose, c'est Philippiens 4, 6, hein, faites connaître vos besoins à l'Éternel Dieu. Et la paix qui surpasse toute intelligence vous sera donnée. Qu'il en soit ainsi, mon frère. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit, mon frère, ma sœur, Ne dis pas que cette année sera bonne, cette année civile sera bonne ou pas. L'année n'est ni bonne ni mauvaise. Parce que c'est l'Éternel qui arrange les temps et les circonstances. Notre vie ne dépend pas de quelques années que ce soit. Notre vie dépend de l'Éternel Dieu. Notre vie ne dépend pas des vœux et des souhaits ou des résolutions. Ça dépend de l'Éternel Dieu. Néanmoins, à tes résolutions dépendra le succès. Mais c'est lorsque tu vas éloigner le mal de ta tente. C'est lorsque tu prendras l'Éternel comme ton or. J'aime bien ces versets de Job. Job, je pense que c'est Job 21. Bon, on va le lire tout à l'heure. Job 21, Job 20 ou 22, le verset 21 à 22. J'aime bien parce que c'est ce verset m'avait été donné au cours d'un mariage. Et je me souviens toujours. Et lorsque je suis en difficulté, je reviens à ce verset pour méditer, pour dire, Seigneur, voici ta promesse pour moi que tu m'as fait lorsque j'étais au début de ma vie avec toi. Alors, David s'est fait passer pour un fou. Il a joué le fou pour pouvoir échapper. C'est comme ces animaux qui, attaqués, font le mort. Ils ne bougent plus pour que l'ennemi ne les attaque plus. David a fait le fou pour pouvoir quitter Gath. Et c'est ce qu'il va faire parce que sa vie était en danger. Toujours la stratégie pour tromper l'ennemi. Et on l'a pris pour quelqu'un qui a perdu la raison. Et il a été chassé de Gath, de chez Achish, et il s'est réfugié dans la caverne d'Adulam. Il s'est réfugié là-bas, où ses frères et sœurs, donc, vont venir se joindre à lui. Vous voyez, il était vraiment dans la détresse, David. Vraiment dans la détresse. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation, je le répète encore, tes difficultés, ce n'est pas encore la fin. Si l'Éternel Dieu a prononcé une parole sur toi, sache que cette parole se réalisera toujours. Donc, n'aie pas peur, mon frère, ma sœur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fort, comme David le sera. Il n'a pas tremblé. Malgré les difficultés, il n'a pas maudit Dieu, il n'a rien dit, même si le nom de Dieu n'est pas évoqué dans ce chapitre, je ne pense pas que Dieu était absent et qu'il priait toujours l'Éternel Dieu, il priait toujours l'Éternel Dieu, sûrement, il priait l'Éternel, même s'il n'était pas nommé. D'accord, mon frère, ma sœur? Quelle que soit ta situation, ne renonce jamais. Ne renonce jamais. Les gens peuvent te prendre pour un fou, mais ne renonce jamais, mon frère. Ne renonce jamais à ta foi. Ne quitte jamais la foi. Ne quitte jamais. Ne quitte jamais la foi. Voilà, donc j'ai retrouvé, c'est dans la version hébraïque que je vais lire Job 22, le verset 21 à 30. Ah, de grâce, réconcilie-toi avec Dieu et tu vivras en paix. Par là, le bonheur renaîtra pour toi. Accueille donc l'enseignement émanant de sa bouche et dépose ses paroles en ton cœur. Le cœur ici, en hébreu, c'est le cœur, le siège de l'intelligence. C'est ça. C'est pas des sentiments. Reviens au Tout-Puissant et tu seras restauré. Éloigne l'injustice de ta tente. Jette à la poussière ton métal précieux, c'est-à-dire l'or. et au caillou des torrents ton or d'Ophir, et le Tout-Puissant sera pour toi un amas de trésors, un morceau d'argent. » Mon frère, ce verset est vraiment explicite. Rien ne peut dans ce monde nous dérober notre foi. Qu'est-ce qu'on peut nous donner dans ce monde? Qu'est-ce qu'on peut nous présenter dans ce monde? Même si c'est de l'or fin, d'Ophir. Mais non, mon frère, ma sœur, le Tout-Puissant est plus que ça. C'est pourquoi la Bible nous dit de mettre nos trésors dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous, Yeshua, est plus que tous les trésors de ce monde. Si nous l'avons, nous avons tout. Je relis encore. « Jette à la poussière ton métal précieux et au caillou des torrents ton or d'Ophir, et le Tout-Puissant sera pour toi un amas de trésors et un morceau d'argent. Car alors tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant. » Car alors, quand tu auras fait toutes ces choses, te repentir, faire de la parole de Dieu une pratique quotidienne dans ta vie, marcher dans les voies de Dieu, quand l'Éternel Dieu sera tout pour toi, quand Yeshua sera ton trésor, plus que tout, alors tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant et tu pourras relever ton front vers l'Éternel Dieu. Tu l'invoqueras, il entendra et tu t'acquitteras de tes vœux, mais oui, de tes promesses que tu as faites à l'Éternel. Mais la Bible nous dit de ne pas faire des promesses à l'Éternel Dieu, de ne pas faire de vœux à l'Éternel si nous sommes incapables de l'accomplir. Il ne faut pas faire le vœu des insensés, mon frère, ma sœur. Tu formeras des projets et ils s'accompliront en ta faveur. La lumière brillera sur tes routes. Les païens et les profanes ne font pas ça. Ils font des vœux. Ils pensent que cela se réalisera. Mais nous qui sommes dans le Messie Yeshua, qui nous avons la foi, voilà, si nous sommes en lui, si nous nous sanctifions de ce monde, nous nous éloignons de ce monde, et si nous vivons dans la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, si nous marchons en nouveauté de vie, alors nos prières seront exaucés. N'est-ce pas? C'est ce que Yeshua dit. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné par l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera. Et il te fait d'abord de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mon frère, ma sœur, si tu as fait de l'Éternel tes délices, alors allez, vas-y, prie l'Éternel Dieu et il te répondra, il t'exaucera. Il t'élèvera, il te fera atteindre les lieux où ta main ne pourra pas atteindre. Il t'amènera sur des hauteurs. Il te donnera des révélations que personne n'a. C'est ce que Yeshua dit, celui qui vaincra. Je lui donnerai quoi? Un caillou blanc sur lequel est écrit mon nom. Je lui donnerai ça qu'aucun d'autre n'aura, mon frère, ma sœur. C'est ainsi. Les innocents sont toujours récompensés. Tu l'invoqueras et tu t'attendras. Et il t'entendra, il t'exaucera et il t'acquittera, tu t'acquitteras de tes vœux. Tu formeras des projets et ils s'accompliront en ta faveur. Mon frère, que ce livre de la loi ne se lève pas de toi, médite le jour et nuit pour agir conformément à ce qui est écrit et l'Éternel te donnera tout. Et tes projets réussiront, et tes prières seront exaucées. D'accord? Tu formeras tes projets, ils s'accompliront en ta faveur. La lumière brillera sur tes routes. Ah là là, la lumière brillera sur tes routes. Ce sera clair, même comme Esaïe l'a dit, tes ténèbres seront comme le midi dans sa splendeur. C'est fort, j'aime bien ce verset. C'est fort, tes ténèbres seront comme le midi. Mon frère, ma sœur, qu'il en soit ainsi pour toi. Nous devons vraiment être sérieux avec la parole de Dieu et non pas nous contenter de la religion, des rites, des rituels, ainsi de suite. C'est pas ça qui nous sauve. C'est Jésus, Yeshua qui nous sauve et qui nous délivre de la colère à venir. on voudra t'abaisser, mais tu diras debout, car Dieu vient en aide à qui baisse humblement les yeux. C'est la tradition différente de ce que nous propose Louis II. Des fois, il faut comparer les traditions, hein, mon frère, ma sœur. On voudra t'abaisser. C'est qui? Qui peut vouloir t'abaisser? C'est l'ennemi de nos âmes. Hein. Vouloir t'humilier, t'abaisser, te mettre dans la poussière pour te faire mordre de la poussière, douter de Dieu, de l'éternel Dieu. Mais tu diras debout, debout. Lève-toi, debout, lève-toi, debout, lève-toi. Ta lumière brille, ta splendeur arrive, ton sauveur arrive. Lève-toi, mon frère, là où tu es. Lève-toi maintenant. Debout maintenant, mon frère, ma sœur. Va. L'éternel Dieu, par son Messie, ouvre la voie. Ouvre la voie pour toi. Ouvre la voie pour toi, mon frère, ma sœur. Comme l'Éternel Dieu a ouvert la voie devant David. David était parti seul, sans rien, sans épée, sans nourriture. Pendant 3 jours, il n'a pas mangé. Il a eu faim, il a eu soif. Mais l'Éternel a mis sur sa route ses serviteurs qui lui ont donné à manger et qui lui ont donné une épée, qui ont mis une épée dans sa main, son instrument de travail. Que l'Éternel aussi te comble au-delà de tes attentes. Mon frère, ma sœur, sois fidèle à l'Éternel Dieu et tu auras ce que ton cœur désire. Quelles que soient les circonstances, c'est lui le maître des temps et des circonstances, mon frère, ma sœur. Alors va à lui et il changera les circonstances et le temps de ta vie. Debout alors maintenant, va, lève-toi, va à lui, retourne à lui, c'est ça, retourne à lui, abandonne mon frère, ma sœur. Abandonne ta mauvaise voie. Abandonne l'inquiétude, la crainte. Abandonne ta timidité. Abandonne tes doutes. Abandonne ton incrédulité. Abandonne ta vie pécheresse. Abandonne ta vie de cochon. Et viens à l'Éternel Dieu comme un père il t'attend. Va encore, va à la croix, mon frère, ma sœur. Retourne à la croix, tout compte fait. Il faut que nous tous nous retournons à l'Éternel Dieu, à Yeshua, et à son Messie Yeshua. Car Dieu vient en aide à qui baisse humblement les yeux. Celui qui s'humilie, c'est ce que la Bible dit, hein, ce que la parole de Dieu dit. Dieu élève celui qui s'abaisse, et il abaisse celui qui s'élève. Il sauvera même celui qui n'est pas sans faute. Oui, celui-ci sera sauvé par la pureté de tes mains. Ainsi, tu seras un instrument entre les mains de Dieu. Si tu retournes à l'Éternel Dieu, tu sépares ce qui est vil de ce qui est bon. Si tu sépares le profane de ce qui est saint, si tu te sépares de tout cela, tu retournes à l'Éternel Dieu. Tu accueilles sa parole, tu marches selon sa parole, tu lui obéis, tu cherches à le connaître comme il est, tu maintiens une relation étroite, une relation vraiment avec le Messie Yeshua. Alors la Bible nous dit que ta lumière brillera et tu viendras même en aide aux autres. Hein? Et tu sauveras même les autres qui seront sauvés par la pureté de tes mains. Parce que lorsque tu obéis à l'Éternel Dieu, non seulement tu fais du bien à toi-même, mais également tu fais du bien aux autres. Aux autres également, tu leur fais du bien. Parce que par ton comportement, par ta vertu, par ton obéissance même, tu pourras répandre ta lumière sur les autres et ta lumière pour les autres. Parce que quand tu brilleras, les gens pourront non seulement voir leur chemin s'éclairer, mais également ils verront leur tâche sur eux. Parce que quand tu seras au milieu d'eux, que tu brilleras, ces personnes aussi verront les tâches qui sont sur eux, leur impureté, leur souillure. Ainsi, eux aussi, ils retourneront donc vers l'Éternel Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, nous garde et nous bénisse et nous donne la force de continuer à œuvrer puissamment pour lui. Puisse l'Éternel te donner la grâce de le connaître à travers donc le Messie, Yeshua, Jésus, en français, afin que tu puisses maintenir une relation vraie avec lui, que toute la grâce lui soit rendue. Amen et Amen.